L'habitat citadin, nouveaux usages, nouveaux besoins, une émission proposée par Colonize sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. J'allais dire que le titre finalement en dit long, l'habitat citadin. L'habitat citadin, c'est bien le sujet du jour, puisqu'effectivement la question du logement n'a jamais été aussi prégnante qu'en ce moment, surtout quand on est jeune, surtout quand on débarque dans une ville, quand on a besoin de se loger, mais pas que, ça peut être aussi des personnes des générations seniors. Bref, la question du logement est au cœur des préoccupations. C'est aussi le premier marqueur social quand vous arrivez dans une ville. C'est tout un sujet, et c'est un sujet dont parfois on peut s'étonner que dans l'actualité, dans le gouvernement, parmi les politiques, on ne s'en préoccupe pas forcément. Et l'idée de cette collection, et je suis ravi de l'inaugurer maintenant, on a déjà fait une première émission, on était en plein boom, en plein événement avec nos amis justement de Colonize, dans lequel on va vous faire partager cette idée, alors souvent je le brocarde un peu ainsi, mais de kibbutz partagé, d'habitat collectif, mais d'habitat partagé. Une ville, pour se concevoir, pour être la plus harmonieuse possible, elle doit être apaisée, donc elle doit aussi se partager. Colonize, c'est bien la promesse qui est tenue, qui sera donnée aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir, justement, pour évoquer ce premier tour d'horizon, d'avoir un politique avec nous. Il a été d'ailleurs maire de ville, donc j'allais dire que l'élu local qu'il est sait ce que ça veut dire. Il est aussi sénateur du Maine-et-Loire, il est avec nous. Il est l'auteur d'un rapport sur les étudiants de façon plus globale, et notamment du logement étudiant, on va en parler. C'est Stéphane Piennoir.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Très bien, merci de votre invitation. Je suis ravi de partager ce moment et d'échange sur le logement étudiant en particulier.
Alors moi, je suis ravi que vous soyez avec nous puisque le sujet du logement des jeunes est au cœur des préoccupations urbaines. Et on voit bien que ça peut être, dans toutes ces corrélations, un frein parfois à l'intégration dans les grandes métropoles, peut-être même un frein dans certaines grandes écoles puisqu'ils n'arrivent pas toujours à trouver un logement. Et c'est bien le sujet dont on va parler, monsieur le sénateur.
Mais c'est essentiel, évidemment, l'accès au logement pour n'importe qui, c'est déjà un enjeu majeur. Pour un étudiant, c'est souvent une première étape, c'est une découverte, semée d'embûches, d'obstacles, et accéder à un logement est une vraie difficulté dans les métropoles, mais pas seulement, aussi dans les petites villes universitaires. On va en parler, mais il y a évidemment des questions d'effectifs de la population étudiante. Et il y a une question d'offre du logement et de l'adéquation entre les deux. Et puis parfois des phénomènes un peu qui surprennent les politiques. Vous parliez des politiques publiques qui sont mises en œuvre et qui parfois ne correspondent pas à la demande parce qu'il y a des fois des phénomènes qui surprennent les politiques. Par exemple, un succès pour le moins inattendu aux dernières sessions du baccalauréat qui a fait mécaniquement arriver plus d'étudiants sur le marché du logement. Et ça, c'est pas simple à gérer en réactivité pour les élus parce que la construction d'un logement, on sait bien, ça se planifie, ça. D'autant plus maintenant, ça ne se réalise pas en quelques mois.
C'est très clair ce que vous dites. Et effectivement, vous êtes devenu parlementaire parce que vous étiez maire de Montreuil-Guigny pendant quelques années. Souvent, on tape un peu facilement sur les maires, mais on faudra aussi un peu rétablir l'équilibre, justement, puisqu'il y a des maires proactifs, des maires bâtisseurs, des maires qui veulent loger les Français parce qu'il s'agit bien du logement des Français. Sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir François Roth, le cofondateur de Colonize. Salut François.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très bien.
Ravi. Voilà, c'est notre première pour cette collection que tu nous as confiée, avec un programme très fourni en termes de contenu. Ce qui est bien, c'est que dans le concept de Colonize, on peut parler de tous les sujets, même de la culture, même du vivre ensemble, de la mixité. Je trouve extraordinaire qu'on puisse enfin avoir l'occasion de s'exprimer, de prendre le temps de le faire. Merci en tout cas de nous avoir confié cette collection. Accompagné de Geoffroy de Sainte-Marie, directeur développement de Colonize.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Geoffroy. Grand professionnel de l'immobilier, bien sûr, aussi. Le sujet du co-living est un sujet extrêmement important. Et on avait souhaité, avec l'équipe de Colonize, de faire parler des professionnels qui bâtissent le territoire au quotidien. Il n'a pas pu être avec nous physiquement sur notre plateau, mais il est en duplex depuis Bordeaux. Il est le vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine. Il est le cofondateur de Ideal Group, un promoteur très engagé sur l'habitat du 21e siècle. Il est installé à Bordeaux, mais Ideal Group fonctionne sur tout le territoire métropolitain. Il est en duplex, c'est Pierre Vital. Bonjour Pierre.
Bonjour Sylvain et bonjour aux équipes parisiennes pour me donner la parole. Et puis
J'espère que je vais pouvoir contribuer avec mon expérience d'opérateur.
Merci en tout cas. Je sais, Pierre, que vous êtes très axé justement sur les solutions innovantes en matière de logement. Ce que je vous propose pour le sommaire, c'est qu'on fasse un petit peu, si vous voulez bien, Stéphane Piednoir, faire un petit constat à la fois des besoins et des très fortes attentes qui sont données sur le terrain. Vous avez publié un rapport, c'était août, je crois, 2021.
Oui.
C'est bien ça, août 2021.
Je faisais partie plus exactement de la mission d'information constituée par la commission culture avec la présidence de Laurent Lafon.
Absolument.
Et je faisais partie de cette...
Et vous avez travaillé, Stéphane Piednoir, sur un volet logement, plus d'une dizaine de pages dans votre rapport, très bien structuré, sur lequel, je vais vous dire, vous avez pointé exactement à la fois les incohérences du dispositif et les manques, et ce qu'il faudrait faire. Moi, ce que je vous propose, Stéphane, c'est que... vous nous donniez un petit peu, vous nous fassiez un peu le tour d'horizon des constats à la fois que vous avez faits, mais aussi des très forts besoins, des attentes qu'ont fait les jeunes. Et ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'ensuite, on commente un petit peu cet état de fait. Clairement, ce n'est pas très réjouissant comme constat, il faut être très clair, hein, sinon, c'est un vrai manque. Donc, moi, ce que je vous propose comme règle du jeu, c'est qu'on élude aucune question, mais qu'on soit quand même résilient, c'est-à-dire positif. Il y a des solutions. Colony est une partie des solutions. Colony, tous les acteurs d'ailleurs du co-living et de l'habitat partagé sont une solution. Je vais commencer par vous, Stéphane Piednoir, justement, le compte-rendu de ce rapport.
Alors bon, évidemment, c'est difficile à résumer en quelques minutes. C'était d'abord un travail d'immersion dans ce qu'est la vie étudiante aujourd'hui. Évidemment, le logement fait partie de la condition étudiante, donc mais il y avait bien d'autres aspects, sur la santé notamment. On sait que les jeunes ont traversé et traversent encore probablement une période difficile avec la crise sanitaire. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, à l'intérieur de ce rapport, une partie a été consacrée au logement, à l'accès au logement, puisque comme je l'ai dit, c'est absolument indispensable. On ne peut pas poursuivre des études. On sait qu'un tiers des étudiants sont logés chez leurs parents. Donc ça, c'est lorsque tout se passe bien, si on veut dire, on a... quand on est logé chez ses parents, les études que l'on veut faire à disposition et très proche de chez soi. Et puis pour les autres, il y a évidemment nécessité de, pas de s'expatrier, mais d'aller voir un petit peu plus loin. Et c'est là qu'il faut franchir le pas. Tout le monde a connu ça à 18 ou 20 ans. Le constat, c'est que on est sur des classes d'âge extrêmement importantes en termes de classe étudiante sur la pyramide des âges. On est sur un pic encore pendant quelques années. On a aujourd'hui 2 700 000 étudiants en France. C'est beaucoup. Mais ça ne va pas durer, en fait. Et la difficulté, c'est de faire en sorte, dans les politiques publiques que vous évoquiez tout à l'heure, de se dire, OK, on doit répondre aux besoins des étudiants qui arrivent, et qui arrivent massivement, parfois jusqu'à 30 000, 40 000 étudiants supplémentaires par an. Moi, j'aime bien une référence qui me parle beaucoup dans ma région, c'est l'équivalent de l'Université de Nantes, étudiants supplémentaires, par exemple, en 2018. Donc, il faut absorber ça, et c'est pas facile. Mais en même temps, il faut pas construire non plus à tout va, parce que on sait bien que dans 4-5 ans, on va avoir un reflux qu'on commence à observer au lycée, au collège plutôt. Et donc, on sait que mécaniquement, d'un point de vue démographique, on va avoir une baisse du nombre d'étudiants d'ici quelques années. Donc, il faut pas non plus... asphyxier le...
Est-ce qu'on est en mesure de chiffrer la baisse?
Oui, les pyramides des âges, j'ai sorti moi-même, mais c'est, j'imagine, des documents que les membres de l'exécutif ont sous la main pour faire des projections sur quelques années. Bien sûr, ça, on le savait sur les classes d'âge que j'ai dit surreprésentées aujourd'hui. Il y a eu des phénomènes. Les taux de réussite sur les 2 dernières années au baccalauréat avec 98%, ça a mécaniquement emmené plus de monde aussi en études supérieures. Une meilleure appétence pour les études supérieures, peut-être une meilleure orientation qui fait que des lycéens, des bacheliers s'orientent plus facilement vers des études supérieures. Tout ça fait que on a, sur les dernières années, une augmentation très forte. C'est une augmentation qu'on observe depuis 2010, mais elle est vraiment encore plus importante sur les toutes dernières années.
Ok. Alors, je propose qu'on continue ensuite, mais je voudrais qu'on fasse d'abord un premier tour de table, parce que, bien évidemment, on va aussi vous donner à nos auditeurs des chiffres très, très, très précis. François Roth, cofondateur de Colony. Moi, j'aimerais juste, comme ça, pour le storytelling, qu'on ait un petit peu le... Qu'est-ce qui fait que, François, vous avez créé cette boîte, développé ce besoin, ou constaté ce besoin qui a été à l'origine de la fondation de Colony?
Ben nous, on a vraiment constaté un problème avant tout et on a essayé de trouver une solution. La problématique aujourd'hui est là que vous avez effectivement de plus en plus d'étudiants qui vont dans le supérieur. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Mais aujourd'hui, le parcours type que vous avez d'un étudiant, il est donc d'être plus longtemps en études, mais il est aussi d'être plus loin et moins longtemps quelque part. Ce qu'on constate sur les parcours universitaires, grande école ou ainsi de suite, c'est que vous avez des gens qui s'éloignent de plus en plus du foyer familial. Sur l'Île-de-France, par exemple, sur la population des stagiaires ou des jeunes actifs, donc ceux qui viennent de signer un CDI, en moyenne, sont des gens qui, quand ils s'installent, sont nés à plus de 200 km de l'endroit où ils travaillent. Donc mécaniquement, vous n'avez pas forcément accès à la possibilité de rester dans le foyer familial, chez vos parents, ils ne sont pas forcément propriétaires de quelque chose, vous n'avez pas forcément de famille sur place. Aujourd'hui, si vous parlez à l'entreprise, la capacité de gérer, de parler couramment une langue étrangère, voire deux, et donc d'être passer par un parcours à un moment international est quasiment un prérequis si vous voulez accéder à certaines boîtes ou à certains postes. Le programme Erasmus, c'est un énorme succès, mais en fait, la mobilité internationale, elle doit s'accompagner d'une politique de logement. Et ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que vous avez une bataille sur la scène internationale, notamment des grandes écoles et des grands pôles universitaires français, pour attirer le plus de talents internationaux. Si vous promenez aujourd'hui sur de grands campus, vous allez rencontrer des étudiants chinois, indiens, américains, de toute l'Europe qui viennent de plus en plus et qui vont rajouter une pression supplémentaire. Enfin, ce qu'on a vachement constaté, alors Geoffroy et moi, on vient de la même école de l'ESSEC, mais c'est quelque chose qui est partagé, quelles que soient les écoles, quels que soient les parcours et même en université, c'est que vous avez de plus en plus une porosité entre le monde professionnel et le monde universitaire. C'est qu'on va vous encourager à aller faire des stages, des expériences professionnelles. On développe, et c'est une excellente chose, l'apprentissage qui vous permet d'être quelques jours en entreprise, quelques jours à l'université. Et donc, ça rallonge la durée des études, mais ça crée de nouveaux besoins. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez devoir vous retrouver en Île-de-France pendant 6 mois, revenir en province, vous avez votre école, si vous regardez le nombre d'écoles ou d'universités qui ont des multicampus. Donc en fait, systématiquement, on va valoriser la mobilité, qu'elle soit nationale ou internationale, dans votre parcours. Mais qui dit mobilité, dit des problématiques de logement. Parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, un étudiant, un stagiaire ou un jeune actif est un profil extrêmement peu attractif pour un bailleur. C'est quelqu'un qui est peu solvable, qui est mobile, qui potentiellement est générateur de plus de dégradation et de nuisance pour les voisins. Donc en fait, si vous regardez, et qui a le moins de pouvoir d'achat. Donc en fait, si vous regardez la totalité, c'est un profil qui est pas sexy pour le bailleur, alors que vous avez
besoin. Il coche aucune case pour l'accès au logement, quoi.
Coche pas beaucoup de cases, non. Ah. Effectivement.
C'est clair. Alors justement, Geoffroy, vous qui avez l'expérience, est-ce qu'aujourd'hui, j'allais dire l'habitat alternatif, je peux me permettre comme ça l'idée, ne serait-il pas finalement la solution pour compléter? Parce que ce problème génère une crise qui est une crise sociale aussi. Et qui est un marqueur, encore une fois, je le rappelle tout à l'heure, c'est un marqueur social. Mais le démarrage dans la vie active, quand on arrive dans une métropole, enfin, je ne connais pas un jeune aujourd'hui qui n'a pas quitté sa ville pour aller étudier. À Angers, par exemple, il y a une très bonne école de commerce, il y a beaucoup de personnes qui voyagent, de Rouen, de Lyon, de Nantes.
Au fond, si individuellement l'étudiant, le jeune actif, on va considérer étudiant jeune actif parce qu'on considère une certaine
oui jeune actif. On va en parler d'ailleurs parce qu'on voilà.
Il y a vraiment des problématiques très étudiantes et puis vers la fin des études, au fond, il y a une espèce de porosité puis une rentrée dans le monde du travail qui peut se faire avec une zone grise où au fond, on a un peu le pire des deux mondes. On n'est plus étudiant. Et en même temps, on n'est pas encore totalement installé, on n'a pas encore de revenus stables, etc., etc. Et donc, on retombe dans les problématiques qu'ont individuellement un certain nombre d'étudiants qui individuellement, seuls, ne cochent pas toutes les cases des bailleurs, etc., etc. De notre constat, et c'est une des idées qui a prévalu à la création de Colonies, et au fond, avant Colonies, aux opérateurs de résidences étudiantes, c'est de massifier d'une certaine manière, c'est-à-dire d'offrir des solutions de logement spécifiques pour des jeunes qui ont du mal à se loger seuls et d'en faire un produit un peu plus institutionnel.
Oui, avec des résidences gérées.
Oui, là-dessus, on n'a rien inventé. Oui, oui. La nouveauté.
Est devenue même une classe d'actifs assez attractive pour les investisseurs.
Et qui est en fait super implantée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des opérateurs qui savent faire, qui ont trouvé leur clientèle et surtout des clients, des usagers qui ont trouvé un intérêt à aller s'installer dans les résidences. Et par ailleurs, un écosystème de l'immobilier au sens large, qui s'est structuré avec des investisseurs qui achètent les murs, c'est-à-dire au fond qui rendent possible ces éléments-là. Donc, il y a un truc particulier, effectivement, depuis toujours dans la résidence étudiante, c'est cette structuration où vous avez un triptyque immobilier, deux porteurs de projets, c'est des développeurs, on va revenir dessus, des investisseurs immobiliers et au milieu des opérateurs. Et c'est ça qui est quand même très particulier à la résidence étudiante.
Absolument. Voilà.
Et c'est ça que nous, on développe un peu en co-living aussi, c'est le modèle de colonise, le modèle opérateur. Avec cette idée de proposer des solutions adaptées, mais qui soient massifiées d'une certaine manière, c'est-à-dire qui soient institutionnalisées.
Alors, si j'emploie le mot industrialisé, non, c'est pas adapté.
On pourrait le dire comme ça, parce qu'au fond, on parle quand même de centaines, là, de milliers,
de dizaines de milliers
de personnes logées. Donc, à un certain moment, effectivement, et quand on parle d'institutionnalisation, c'est au fond intéresser des acteurs qui vont être capables de déployer des moyens importants, pas que financiers. Là, c'est à la fois pour les promoteurs et pour les investisseurs.
Absolument, et aussi d'un point de vue structurel. D'ailleurs, tout à l'heure, vous me permettrez, si vous voulez bien, de développer cette info qui a... sur Colony, puisque vous avez fait, ça a été annoncé, bien évidemment, avec l'engagement d'un financement à hauteur de 1 milliard d'euros, je crois. Donc, c'est très significatif. Pierre, vous êtes en duplex avec nous. Alors, vous avez la particularité, Pierre, c'est de fabriquer du territoire, des morceaux de ville, des morceaux d'habitat. Plus que jamais, vous êtes au cœur de cette préoccupation. Alors, on va pas se mentir, hein. On sait que le logement aujourd'hui neuf est en berne totale. Je prends un chiffre. 391 000 autorisations d'urbanisme en 2021. Exactement le même chiffre qu'il y avait en 1982. Seule différence, c'est qu'il y a 14 millions d'habitants supplémentaires. L'immobilier neuf est en crise. L'accès au logement, abordable, logement digne, logement décent est un vrai sujet aujourd'hui dans les métropoles. Et plus que jamais, ceux qui nous écoutent quand ils sont jeunes, ou ceux qui l'ont été quand ils sont arrivés, et ça a été mon cas quand je suis arrivé à Paris tout jeune, je peux vous dire que c'était juste l'enfer pour se loger. Permettez-moi d'utiliser des mots un peu forts, mais c'est bien le cas. Pierre, les grands enjeux, quand vous écoutez ce que nous dit François, ce que nous dit Geoffroy et le député Stéphane Piennoir, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Le sénateur
Stéphane Piennoir. Pardonnez-moi, monsieur le sénateur.
Oui, tout d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est que notre profession a connu des grandes mutations récemment, puisque on était sur un marché qui était très segmenté, avec des opérateurs qui faisaient que du logement, des opérateurs qui faisaient que du tertiaire, et donc on est sur un métier où on sent qu'effectivement les frontières dans les usages sont maintenant poreuses. Et elles sont poreuses parce que les modes d'habitat ont fortement évolué ces dernières années. La solution aujourd'hui qui est proposée par Colonise est une solution du coup qui est hybride, parce qu'on retrouve à la fois cette notion de logement classique, mais dans lequel on a cette flexibilité, pouvoir changer de lieu facilement, pouvoir aller d'une résidence à l'autre, également avec plus de liens sociaux et probablement plus de services. Donc notre métier de base, c'est d'aborder ces nouvelles attentes de nos clients. La difficulté qu'on a en face de ça, c'est pour nous, c'est qu'il y ait une reconnaissance sur la nécessité de produire plus. On parlait tout à l'heure de massification sur ce métier-là, qui est le métier du co-living. Nous, aujourd'hui, comme vous le disiez, Sylvain, on est actuellement dans une phase où le logement est en berne. On vient d'apprendre qu'un nouveau gouvernement vient d'être nommé, dans lequel le logement n'est pas représenté en plein pouvoir, puisque pour l'instant, on attend encore des secrétaires d'État qui ne sont pas encore nommés. Donc, on est vraiment le parent pauvre, on va dire, de la thématique du gouvernement. Et c'est fortement dommage, parce que ce problème-là du logement au sens large est un problème qui impacte tous les Français au quotidien. C'est un poste de dépense qui est important. Et donc, si on est capable de produire de l'habitat de qualité, c'est bien dans le logement neuf qu'on va le trouver. C'est pas dans la réhabilitation. Effectivement, il y a un levier et il y a un vivier qui est très important sur la réhabilitation, mais il faut produire du logement neuf pour adresser tous les marchés. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on s'inquiète très fortement de la situation. On s'inquiète fortement aussi d'un autre phénomène qui est celui du malthusianisme de la production des élus locaux. Et ça, effectivement, il faut assumer une production qui soit de qualité, qui adresse tous les marchés et dans lequel on peut avoir une exigence forte, aussi bien en termes de services qu'en termes de qualité environnementale. Et là-dessus, le logement neuf est exemplaire. Je dirais même qu'on est les premiers et les précurseurs au niveau européen en termes de qualité de logement livré, puisqu'avec la RE 2020 qui est appliquée depuis le 1er janvier, ça nous a positionné en numéro un en termes de niveau de performance énergétique des logements produits en Europe.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Pierre, puisque c'est aussi le sujet, c'est la préoccupation des jeunes générations sur la transition énergétique et l'environnement, qui est un des points un des marqueurs aussi importants de leur intégration dans la vie active. C'est pas neutre, hein, c'est pas quelque chose qui est réservé uniquement à une classe sociale, mais il y a quand même des chiffres que vous nous aviez communiqués, François, avec vos équipes, des chiffres qui sont publics et qui ont été publiés par la Fondation de France. 21% des jeunes vivent en extrême solitude. On a commencé à chercher, justement, dans ce rapport, on a trouvé une chose qui est assez, pour le dire, sidérante, c'est que c'est un facteur d'aggravation de la santé des jeunes. Et c'est vrai, monsieur le sénateur, qu'on ne s'attend pas à se dire que le manque de logement peut être un effet dégradant de la santé. Santé mentale, par le stress, par des situations de dépression qu'on trouve rarement, et un accroissement de plus de 30% si on prend les générations qui ont succédé sur ces types de problématiques, peut-être parce qu'on communique mieux, peut-être, il y a des facteurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on voit bien que l'intégration de ces jeunes générations qui arrivent en ville, dans le ville, ça ressemble plus à un parcours du combattant et à une jungle urbaine. La deuxième chose, le deuxième corollaire, c'est que les attentes ne sont pas les mêmes. Je dois avouer, bien évidemment, moi je viens d'une génération où déjà quand tu trouvais un boulot et un petit logement, tu étais content. Et donc, et des préoccupations, j'allais dire, entre guillemets, environnementales ou l'impact que je pouvais avoir dans la société était plus secondaire, mais il faut le dire. Effectivement, on voit bien que effectivement le choix de l'emploi, le choix des études est très orienté vers un projet de société, vers un projet social. Vous avez noté dans votre rapport, monsieur le sénateur, parce qu'on va bien évidemment, vous avez parlé du CROUS, inévitablement, dont on espère la réforme souhaitée, voulue, bien évidemment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le CROUS ne peut pas absorber les effets de la demande. Vous l'avez clairement pointé. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il n'y ait plus de CROUS demain matin, on est bien d'accord, mais qu'il faut qu'il y ait une demande multipolaire qui réponde à une attente de masse, vous l'avez dit. Le sujet sur lequel vous avez pointé, c'est aussi cette réforme qui fait que les résidences qui existent aujourd'hui, on peut le dire, sont un peu vétustes, n'offrent pas un habitat hyper sexy, si je peux me dire les choses comme ça. En tout cas, c'est clair qu'on est face à une problématique qui est liée à des besoins qui nécessitent des moyens et que ce projet de rénovation du CROUS qui est souhaité de toutes parts est un vrai besoin. Vous avez dit tout à l'heure aussi un chiffre, vous avez parlé de 2 700 000 étudiants. Vous avez évoqué dans votre rapport 350 000 places en résidence étudiante, donc la moitié dans les CROUS. Un manque estimé d'environ 250 000, c'est considérable. Alors, je vais parler aux politiques que vous êtes. Vous êtes dans cette commission au Sénat. Vous êtes un ancien élu local et vous connaissez bien les problématiques. Quelles seront les solutions, puisqu'on sait que c'est que politique, ça ne peut être que politique, à l'instar effectivement de ce que font aujourd'hui les acteurs privés comme Colonise, les promoteurs comme Idéal. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait un accompagnement.
Vous avez dit, vous avez dit beaucoup de choses.
Voilà. Ça pose clairement la discussion, quoi, on peut dire les choses.
L'étendue du sujet. Alors, d'abord, si je me réfère à ce que je connais le mieux, c'est à mon territoire, Angers. J'étais le maire d'une plus petite commune, 7500 habitants au nord d'Angers. Angers, c'est 160 000 habitants et 40 000 étudiants, plus de 40 000 étudiants aujourd'hui. Évidemment, ils ne sont pas tous domiciliés, vous connaissez, c'est un quart de la population, ça représente un quart de la population, c'est énorme.
Considérable.
Ça veut bien dire, et c'est quelque chose qui a progressé d'année en année, avec, bien sûr, on a une université publique, l'université catholique, un institut privé, et puis des tas d'écoles, l'ISTOM qui s'est implanté il y a 2 ans, 3 ans sur notre territoire. Enfin, on voit que tout ça, il y a une attractivité.
Un peu comme Nancy, qui a 200 000 habitants au niveau de l'agglo et 100 000 au niveau de la métropole, qui a 50 000 étudiants.
Quoi. Voilà, et au niveau de la métropole d'Angers, c'est 100, 150 000 habitants. Oui. Donc, vous voyez, c'est considérable. Et l'attractivité, vous parlez d'une école de commerce, je pense que c'est l'ESCA sur Angers. Le succès appelle le succès école. Et on parle de ça. Donc, mais il faut le gérer. Donc, il y a les plans d'urbanisme, mais ça, c'est du temps long. Vous connaissez tous le temps qu'il faut pour construire un PLUI aujourd'hui. C'est entre 5 et 10 ans, hein, probablement. Donc, il faut trouver des solutions plus rapides pour répondre à la demande. Ce que je veux dire, c'est que les résidences universitaires, c'est 350 000 globalement, dont la moitié gérée seulement par les CROUS. Les autres sont dans les écoles, dans les grandes écoles, proposent aussi du logement étudiant. mais 24%, presque un étudiant sur quatre, vit en location seul, tout seul. Ça, je pense que c'est peut-être un modèle qui est en train de disparaître, ou en tout cas de diminuer, parce qu'il y a une aspiration des étudiants, et sans doute des gens, d'une manière générale, à vivre un petit peu plus en société.
La lutte contre la solitude, qui est le phénomène
qui a frappé...
qui
a été terrible.
Et qui est un facteur aussi de dégradation des relations sociales
dans
la vie. Et c'est là que c'est intéressant, le co-living. J'aimerais bien qu'on explique un peu le co-living et le coloc. Hein.
J'allais y venir.
Voilà.
Allez-y. J'allais y venir. Justement. Et les politiques, il leur faut toujours du temps long pour développer leur...
Mais oui. On est d'accord. Je suis ravi que ce soit vous qui le disiez.
Et donc, pour correspondre à ce besoin de vivre davantage en société avec quelques camarades, il y a évidemment cette solution de la colocation. Mais encore faut-il que ça se passe de manière harmonieuse. C'est pas toujours simple, la colocation. Les solutions de co-living, les solutions un petit peu disruptives qui proposent autre chose, c'est aussi une occasion. Là, je vous écoutais sur les attentes environnementales des étudiants, notamment. Mais c'est quelque chose qui a toute sa place dans la société. La colocation ou le co-living, c'est aussi du covoiturage, de manière évidente. Au lieu d'avoir quatre voitures, on peut se permettre de covoiturer très régulièrement et on diminue son impact carbone. Et ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de concentrer tous les logements étudiants dans la ville universitaire. Il faut accepter de délocaliser aussi dans la périphérie. Il faut sans doute mieux communiquer auprès des élus locaux, leur dire aussi tout l'intérêt que ça peut représenter d'accueillir sur leur territoire des étudiants qui se comportent correctement. On sait aussi qu'il y a un peu de réticence parce que, en plus des cases non cochées que vous évoquiez, il y a parfois, quand on est jeune, on fait un peu plus souvent la fête que quand on a 40 ou 50 ans. Il faut gérer ça. Donc, il faut sans doute que ce soit cadré dans une charte, j'imagine, à proposer aux étudiants pour garantir que les investisseurs se disent, OK, on investit, on va proposer aux étudiants de se loger, mais on va pas mettre la pagaille dans le quartier parce que dans ce coup-là, on n'aura pas gagné notre pari, quoi. Il faut avoir aussi ça en tête pour que ce soit accepté de l'ensemble du voisinage.
Est-ce que l'élu local que vous étiez sur une petite commune, est-ce que vous étiez plutôt orienté sur le maire bâtisseur? Est-ce que vous ressentez ce besoin de la population à avoir, sur ce que disait tout à l'heure Pierre, et c'est très juste, ça ne peut fonctionner, cette offre multipolaire, pour la massifier, je reprends les termes de Geoffroy tout à l'heure, d'avoir une offre pluripolaire, c'est-à-dire du neuf, de la réversibilité de bâtiments, on va en parler, de la réhabilitation de bâtiments, de l'achat diffus aussi dans des copropriétés, on va en parler aussi avec François. Est-ce que aujourd'hui la température des élus locaux, on les rencontre chaque mois, et Dieu sait que c'est pas simple, pour eux aussi, parce que parfois on fustige un peu facilement les élus locaux, et parfois on leur associe ou on leur attribue des compétences, sans forcément leur attribuer les recettes qui vont avec.
Quand j'ai été élu maire en 2014 dans ma commune, j'ai poursuivi un gros programme d'urbanisme sur 43 hectares, plus de 800... C'est grosse opération 800 logements sur une quinzaine d'années, donc on a poursuivi ça. Il y a une forte attractivité de ma commune parce que on est en périphérie d'Angers. Il y a juste un frein pour les jeunes à se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait avoir notre logement ici? C'est la mobilité, c'est l'accès au transport. On a un tramway qui s'arrête à 1,3 km de notre centre. On avait regretté à l'époque qu'on ne puisse pas...
On peut se poser la question quand même.
Qu'on ne puisse pas...
1,3 km.
Et surtout vu la typologie du terrain pour le prolongement. Bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que ça fait partie des freins aussi pour les jeunes de se dire, si j'ai juste le tram à prendre pour aller au centre-ville ou pour aller à mon université, c'est quand même un gain. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on commence à... Ça commence à progresser, l'état d'esprit commence à changer sur les constructions. Je vous donne un exemple, on a un nouveau projet. Alors, je suis plus maire, c'est toujours dans ma commune, donc j'en parle quand même. On a un projet urbaniste avec une résidence, et là on se dit pourquoi ne pas faire de petits logements qui peuvent soit s'adresser à des personnes qui sont dans un parcours résidentiel, pas encore en âge d'aller dans un foyer logement, mais quand même, au-delà de 60 ans, ils se disent, c'est le moment d'abandonner notre jardin. Donc, plus petit logement, mais aussi pour des jeunes qui se disent, demain, dans un T2, un T3, dans une commune comme ça, ça a du sens. Quitte à ce que les architectes, et ça c'est très important, aient en tête de pouvoir fondre deux appartements en un pour un jour qu'un acquéreur se dise bah, « moi, c'est plutôt un T4 ou un T5 qu'il me faut ». Ça, c'est un changement de comportement dans les pratiques des architectes qu'on observe et que les maires et les urbanistes demandent de plus en plus.
Et donc, du coup, si vous aviez, je parle de co-living, mais des acteurs du co-living qui permettraient de fluidifier, c'est-à-dire d'exploiter finalement ces potentialités, ça simplifierait la vie de ces jeunes, justement. Et vous, l'élu que vous êtes, ça simplifierait aussi la lisibilité de l'offre et des demandes de vos administrés. C'est intéressant parce qu'il y a une piste que je voudrais qu'on creuse là-dessus, c'était justement sur cette qualité de vie, puisque dans le rapport que vous avez rédigé avec vos collègues, on a la qualité de vie est très importante. Est-ce qu'elle est plus importante, François, dans cette génération qui arrive, qu'elle ne l'était il y a 15 ou 20 ans ? Est-ce qu'on ne voit pas là, finalement, poindre des préoccupations différentes ? Et finalement, dans la maîtrise des usages et des besoins, finalement, on voit bien que Colony, dans le contemporain, répond à une demande sociale et sociologique différente, finalement.
Bah oui, elles ont énormément évolué, ces préoccupations et ces besoins, pour pas mal de raisons. Donc, comme on l'a expliqué, on a des gens qui sont globalement plus déracinés, qui sont plus loin de leur foyer. Ensuite, vous avez un parcours de vie aujourd'hui qui est peut-être plus lent que celui des générations précédentes. Vous avez un âge du premier enfant, un âge du mariage qui n'a fait quasiment que reculer. Vous avez une précarisation de l'activité professionnelle. Enfin, c'est assez dur de se le dire, mais par exemple, sur la région Île-de-France, sur les deux dernières années, je crois que le premier créateur d'emploi, c'était Uber. Et que sur la création nette d'emplois, le CDI n'est pas la norme. Les gens aujourd'hui qui accèdent à l'emploi le sont en freelance, en auto-entrepreneur, en CDD ou ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'un des corollaires de ça, c'est que vous êtes de moins en moins posé, vous rallongez vos temps
d'études. Est-ce que c'est une précarisation de l'emploi ?
C'est clairement une précarisation, mais c'est un phénomène qui est mondial et je suis pas sûr qu'on va y aller à rebours. Alors on peut effectuer des résistances, mais c'est quand même plutôt une tendance de fond. Et le corollaire de tout ça, c'est que vous avez également un accès à la propriété qui est de plus en plus tardif, voire inexistant. On a aujourd'hui des nations entières en Europe où vous avez plus de la moitié des habitants qui restent locataires jusqu'à quasiment la fin de leur jour. Alors, c'est pas le cas en France. On est une des nations aujourd'hui à le plus gros taux de propriétaires. Mais aujourd'hui, si vous comparez ça, vous avez un choc terrible entre les générations. Aujourd'hui, l'accès à la propriété se fait en moyenne, au-delà de 40 ans, on a quasiment pris 8 ans par rapport à la génération précédente.
C'est juste considérable, puisque moi, je fais partie d'une génération où on espérait que ceux qui naîtraient dans les années 2000, moi, je suis né en 1965, justement, n'auraient pas ces préoccupations que nous avions lorsqu'on était dans une acquisition de logement. Ben, moi, je suis d'une génération où on avait une inflation à 16% et on empruntait entre 14 et 15. Donc c'est un autre monde. Ça paraît incroyable, mais c'était il y a seulement 30 ans. Geoffroy.
Venir, hein. On ne sait pas.
Oui.
On
ne
sait pas.
Oui. Alors justement, Pierre, là effectivement, vous entendez bien ce que dit François, parce que encore une fois, on vous a imposé, on a remplacé le T par le E. On a dit voilà, avant c'était thermique RT 2012 par le E environnement RE 2020. Bon. Vous êtes la profession qui a subi le plus d'inflation normative, de réglementation, tout secteur tertiaire confondu. C'est juste impressionnant. Moi, j'ai envie de vous poser la question, si vous permettez, pour mettre les pieds dans le plat, est-ce qu'on veut tuer l'immobilier dans ce pays ou pas ?
Bon, en tout cas, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'on est une profession qui est résiliente, parce qu'on subit des crises fortes. Récemment, puisqu'on a eu donc la crise du Covid, on a actuellement la crise des matériaux et on vient cumuler à ça donc ce que vous évoquiez, la RE 2020. Il faut pas oublier que il y a également les textes du zéro artificialisation nette, le ZAN, les décrets qui sont parus en début d'année et qui donnent une trajectoire à 2050 de zéro artificialisation. Et il faut savoir qu'on est quand même aussi, et c'est triste de l'apprendre, mais on est aussi le premier pays à avoir légiféré sur cette trajectoire qui est une trajectoire et une tendance européenne. Donc, on est dans un pays, mais ce qui fait aussi la particularité de la France, où on aime bien rédiger les textes, les appliquer et ensuite revenir dessus parce qu'ils sont non applicables. Donc, aujourd'hui, notre quotidien, il est de jongler avec ça. On ne peut pas aller contre les tendances et on ne peut pas aller contre la démarche de la RE 2020 qui prône plus de sobriété sur l'émission de CO2. On ne peut pas aller à l'encontre du ZAN qui prône plus de sobriété sur l'utilisation des terrains. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour travailler dans ces conditions ? Je pense que, comme je disais, on a un métier qui est résilient, mais on doit être aussi des opérateurs agiles. Une des particularités, ça va être effectivement de faire en sorte que on utilise ces contraintes-là pour en faire des forces demain. L'ARE 2020 est un dispositif qui aujourd'hui est considéré comme une contrainte, mais avec le corollaire qui est l'exclusion à venir des logements qui sont les passoires énergétiques, on peut se dire que dans l'inconscient commun, on va avoir des gens qui vont prendre conscience qu'avoir un logement classé F ou G sera demain un logement qui sera non cessible, non louable. Donc, le neuf va avoir un impact beaucoup plus positif et va être beaucoup plus valorisé. Donc, il faut voir effectivement cette temporalité qui, à date, nous est pas favorable. On le subit et on fait avec. Mais par contre, qui très rapidement, dans le principe de communication sur cette fameuse loi sur la classification énergétique, va amener à ce que les gens vont prioriser le logement neuf, vont peut-être mettre dans l'équation d'achat le coût complet du logement, puisqu'on parle aujourd'hui souvent d'un prix d'achat sans penser aux frais de notaire, sans penser aux charges de copropriété, sans penser aux charges de consommation d'énergie. Peut-être que demain, la façon de vendre les logements neufs seront de travailler sur un coût complet du quotidien, c'est-à-dire qui englobera l'ensemble des dépenses qu'on peut avoir sur l'acquisition d'un logement neuf. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive, je pense, dans la profession à mettre en avant pour justifier que parfois, le décalage qu'il peut y avoir entre le neuf et l'ancien sera parfaitement justifié et même aura une vraie plus-value à être sur du logement neuf. On le voit déjà sur le tertiaire, où effectivement, sur le tertiaire, tous les investisseurs qui achètent des immeubles sont très sensibles à la notion de coût de consommation, de coût de fonctionnement du bâtiment. Et je pense que dans les actifs de Colonise, il y a cette même démarche de travailler sur comment est-ce qu'on optimise, comment est-ce qu'on valorise un bâtiment qui est efficace, qui est sobre en consommation d'énergie. Et c'est une problématique du quotidien.
Geoffroy, vous voulez...
Oui, si je peux rebondir là-dessus, je suis d'accord avec ça. La loi climat, et en particulier la réforme du DPE, là, depuis juillet 2021, elle a une immense vertu et elle pose plein de questions, plein de difficultés, mais qui sont, à l'échelle des temps longs de l'immobilier, des épiphénomènes. Elle a une vertu, c'est qu'elle rend lisible, et très lisible, pour tout le monde, la qualité du logement. Et la qualité du logement avec un truc, c'est qu'une qualité de logement, en particulier sur la notion de performance énergétique, de consommation énergétique, en euros. Et ça, l'évolution récente en plus des prix de l'énergie font que, en fait, on revient à une échelle humaine et on comprend la qualité d'un logement comparé à un autre. Alors évidemment, l'écart est absolument énorme quand on le compare au neuf. Ça permet aussi de comprendre dans l'ancien, et je crois que le chiffre c'est 1% des mètres carrés neufs créés par an dans le parc français. C'est-à-dire que tous les ans, on a 99% d'anciens, 1% de neufs. Donc une énorme masse qui est extrêmement hétérogène. Et y compris quand on est professionnel de l'immobilier, il était jusque-là relativement difficile de se faire une idée, entre guillemets, à l'œil nu. Voilà. Donc ça a cette vertu-là. Après, ça amène plein de difficultés. La difficulté majeure qu'on voit, nous, c'est la difficulté qui est posée à des propriétaires privés. On revient à la notion de colocation. On va s'intéresser à cette manière. Alors, je crois que la colocation, c'est 15% des jeunes étudiants, qui à peu près 12 ou 15. Donc, c'est pas énorme comparé à d'autres, mais c'est vraiment celle où on a un écosystème composé majoritairement de propriétaires qui sont des personnes physiques qui ont un appartement en colocation, deux appartements. C'est pas des chaînes, c'est pas des groupes, etc. Et ben, aujourd'hui, on a une visibilité assez forte sur la qualité du bâti. L'enjeu, c'est de savoir comment on finance ces travaux-là. Je veux dire, on se parle de centaines de milliers d'appartements en France. On est sur une typologie assez particulière de propriétaires investisseurs, bailleurs, qui n'occupent pas les locaux, qui n'ont pas accès à toute la batterie d'aides d'État qui ont été mises en place et qui d'ailleurs fonctionnent très bien. C'est des centaines de milliers de demandes par an.
Les chiffres des étiquettes F et G, c'est 4 800 000 logements.
Voilà, c'est absolument considérable. De région en région, c'est pas d'ailleurs pas
tout à fait. Et on estime même d'ailleurs le volume de rénovation énergétique sur l'ensemble des êtres énergétiques, il y en a 7, sur la lettre F, G et ensuite... D et E, puisque l'objectif est d'arriver en 2034 à la lettre E, c'est 110 milliards d'euros d'investissement.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est le chantier du siècle.
Un des enjeux, à mon sens, c'est un des enjeux particuliers, on va dire, à la colocation, c'est vraiment la capacité des propriétaires à rénover des appartements qui, si on caricature un peu, sont toujours un peu sur le même schéma. C'est des appartements qui ont un certain âge.
Oui.
Et qui sont plus concernés que d'autres statistiquement par ces enjeux de rénovation énergétique. Donc là, nous, on fait le pari, mais c'est une stratégie, c'est une idée qu'il y a de la place pour un opérateur qui va faire ça de manière je vais pas utiliser le terme massifié, mais de manière un peu professionnelle. Mais l'enjeu se pose en particulier pour les investisseurs particuliers, parce qu'aujourd'hui, ils ont un moyen de savoir quelle est la différence entre leur appartement, un appartement neuf et un appartement vertueux.
Et c'est la question qu'on nous pose d'ailleurs, c'est le deuxième partie justement de ce débat que je voudrais vous proposer, c'est pourquoi il nous faut, monsieur le sénateur, un opérateur qui tient compte. En fait, vous avez tout à l'heure utilisé le mot disruptif. C'est bien de ça dont il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que veut un propriétaire ? Il veut juste toucher son loyer le 10 du mois, hein, faut être très clair là-dessus. Et en sachant que le coefficient de détention patrimoniale en France, il est faible. On est quand même une république de propriétaires, à l'instar de l'Allemagne, hein, je prends l'exemple. Hein. Je prends juste, par exemple, les actifs à Berlin. Je peux prendre Berlin comme... C'est 70% de locataires. Hein. Donc, on voit bien que, selon les pays, on a ou pas des appétences à la propriété. En France, on aime la propriété. On aime la propriété. Alors moi, je voudrais vous poser la question. En tant qu'opérateur disruptif, nouveau, innovant, qu'est-ce qu'on fait, François ? Est-ce qu'on achète des immeubles en bloc et vous jouez le rôle, finalement, d'hôtellerie moderne et, qu'on appelle co-living et vous gérez effectivement les espaces ? C'est ce que vous faites en partie. Est-ce que vous achetez dans le diffus ? C'est-à-dire que vous rentrez dans les copropriétés, des appartes bien situés, à proximité. Et si vous permettez, j'aimerais parler de l'info que vous avez, qui a été rendue publique le 11 mai. Hein. Je fais le pitch. Colonie annonce un engagement de financement d'Ares Management pour déployer son offre de logements en colocation dans plusieurs grandes métropoles d'Europe de l'Ouest. L'objectif est de constituer un portefeuille d'appartements en colocation allant jusqu'à 1 milliard d'euros. Donc on vous a confié 1 milliard d'euros. C'est juste énorme. C'est un fonds de pension américain, je crois. Qui vous convient. Donc ça veut dire quoi ? Demain, Colonie achète dans des copropriétés, n'achète plus uniquement qu'en bloc.
Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Hein. Le logement neuf aujourd'hui reste de très loin le logement qui va offrir la meilleure qualité de vie, la meilleure qualité et performance environnementale. La problématique, c'est que cette offre n'existe pas. On est sur 1%. Et comme l'a dit monsieur le sénateur, le besoin, il est là maintenant. Les besoins aujourd'hui, je crois qu'on a quasiment 2% d'augmentation du nombre d'étudiants dans les années à venir, puis ça va redescendre. Aujourd'hui, générer des centaines de milliers de chambres, et c'est de ça dont on parle de 350 000 manques de chambres en neuf. Bah, en France, ça nous prend des années. Peut-être tant mieux, hein, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on en fait une fois que c'est entièrement là ? Quelle est la réversibilité ? Ou ainsi de suite. Le deal qu'on a fait avec ce fonds de pension américain, il est assez simple. Il part du constat de l'existence d'une offre obsolète par rapport aux besoins des ménages. Et on est exactement dans la pyramide des âges. Il est sur le départ d'une classe d'âge qui est celle des baby-boomers, qui était une classe d'âge qui avait beaucoup plus d'enfants et qui occupait des appartements qui étaient beaucoup plus importants. Donc aujourd'hui, vous avez un gros stock d'appartements de plus de 100 mètres carrés disponibles dans les métropoles qui sous-occupaient, puisque vous avez une ou deux personnes qui souvent le vendent pour partir vers d'autres horizons ou pour prendre plus petit.
Tout à fait.
La problématique aujourd'hui, donc c'est très logique d'y mettre 4 étudiants en colocation, comme 15% le font aujourd'hui dans le diffus. La problématique que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est que quand vous êtes propriétaire individuel, loué à 4 étudiants, c'est un risque d'impayé, c'est un risque de gens qui ne sont pas solvables, c'est un risque de vacances. L'été, un mois de vacances, c'est 8% de revenus locatifs en moins. Donc, qu'est-ce que vous allez faire mécaniquement ? Vous allez augmenter vos prix. Or, justement, ce sont les gens moins solvables qui ont moins de revenus et pour qui le coût d'accès au logement est une des problématiques fondamentales, jusqu'en moyenne 60-65% du budget pour pas mal de ces étudiants. Donc nous, notre constat qu'on a eu, c'est qu'on a des biens existants, qu'on était en capacité de rénover intégralement, énergétiquement ou en aménagement intérieur, de les rendre disponibles à une classe d'âge qui avait un problème immédiat, des biens qui sont réversibles, puisque dans 6 ans, si on veut en faire autre chose, on peut soit les diviser, soit les rendre à nouveau accessibles à des familles, et surtout avec une performance énergétique qui est assez canon, parce que pour le coup, la rénovation d'existants, c'est 60-70% de bilan carbone inférieur à raser, reconstruire ou reconstruire.
Ah oui,
c'est donc c'est clair. Plutôt intéressant. Donc la problématique aujourd'hui, pourquoi un investisseur institutionnel ne veut pas aller en copropriété, c'est pas mal sur la gestion de ce risque. Il y a 5% de copropriété complexe, vous avez 1%, 0,5% d'impayés au niveau des étudiants, enfin, vous avez toutes sortes d'aléas. Je crois que monsieur le sénateur est professeur agrégé de mathématiques, donc j'espère qu'il va pas me reprendre. Mais la théorie d'investissement qu'on a développée avec ce fonds de pension américain, c'est tout simplement une application de la loi des grands nombres. C'est-à-dire de faire un problème d'aléa, un problème de statistique. Et qu'à partir du moment où on va acheter 2000 appartements en copropriété en Europe, on va pouvoir se couvrir sur tous ces aléas et ces risques. Alors, par exemple, en mettant en place des partenariats avec des garanties Visa, Garant.me ou ensuite pour ceux qui n'ont pas de garant, réussir à mettre en place des process de sélection qui vont nous permettre de nous prémunir d'impayés, de gens qui vont arrêter leurs études en cours de route, de nuisances avec les voisins, avec des chartes, avec le fait qu'on s'occupe de gérer ces nuisances au quotidien, on répond au téléphone, on fait des rappels à l'ordre, ainsi de suite. En gros...
Mais vous assistez aux assemblées générales de copro?
Alors, on gère également les copropriétés.
Vous représentez les propriétaires que vous...
Voilà,
vous
et tout ça grâce à des process, à de la technologie. Mais l'idée de base, elle est que vous avez la rencontre de quelqu'un qui doit déployer énormément d'argent avec des flux stables dans le temps, que le marché résidentiel, aujourd'hui en Europe, est un des marchés les plus stables au monde. Donc, c'est parfait pour des fonds de pension. Sauf que vous avez besoin de vous prémunir d'aléas et que donc, avec l'application d'une stratégie de massification du digital et des process... Vous arrivez, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on titrise de la coloc pour le compte d'un fonds de pension, globalement.
Question, pardonnez-moi, je vous redonne la parole immédiatement. Est-ce que c'est de l'administration de biens?
Oui, c'est de l'administration de biens, mais c'est toutes sortes de missions, en fait. C'est du sourcing d'actifs existants, c'est des missions de travaux et de conception, c'est de la gestion locative sur le parc étudiant et jeune actif qu'on va trouver, de l'administration de biens, de l'asset management et du property management. Toutes ces missions, pour le compte... d'investisseurs qui, pour le coup, ne sont même pas à Paris.
Donc, si j'ai bien compris le modèle, qui est un modèle économique, c'est-à-dire qu'en fait, la masse de ce que vous allez acquérir dans le dissu, hein, j'ai bien dans des copropriétés dans lesquelles vous allez aller en assemblée, discuter des travaux, du ravalement, etc., etc., c'est à partir d'un seuil que ça devient modélisable et intéressant. C'est ça que vous dites?
Exactement.
Hein, en substance. Monsieur le sénateur, vous voulez intervenir?
Oui, je voulais dire deux mots d'abord sur la garantie, parce que c'est dans les nombreux obstacles que j'ai évoqués au tout début, il y a cette garantie lorsqu'on accède à un logement. La garantie Visa répond en partie quand même à cette problématique. Mais il y a quelque chose qu'on a assez peu évoqué, en fait, c'est le coût. La disponibilité, l'offre de logement, oui, c'est une chose. Et il y a le coût du logement, il y a le coût du loyer. Or, on a plusieurs phénomènes. C'est que donc on a eu cette massification du nombre d'étudiants, ok. Et puis on a eu l'effet Covid, c'est-à-dire que dans un certain nombre de communes, de départements pas trop éloignés de Paris, on a eu un afflux vers ces communes. Angers est à 1h30 de TGV, et ça a augmenté la pression foncière. Donc, ça a fait baisser le nombre de logements disponibles, ça a fait augmenter le coût des loyers. C'est absolument insupportable. Et on a, à côté de ça, une des politiques publiques qui sont défaillantes. Le plan en 2013 a plutôt été achevé avec 40 000 logements produits pour les étudiants. Celui qui a été annoncé en 2017, c'est un fiasco. Vous évoquiez le nombre de mises en chantier des logements, mais sur les jeunes et en particulier les logements, on avait 60 les logements étudiants, 60 000 à 80 000 annoncés par le gouvernement précédent, et il y en a pas eu la moitié de fait. Et aujourd'hui, on n'a même pas de ministre de logement, ça a été évoqué par Pierre Vital tout à l'heure. Enfin, on voit que ça, on a l'impression que c'est pas une politique publique essentielle, alors que je peux vous dire que la façon dont c'est tendu, le marché est tendu, par exemple à Angers, mais dans plein d'autres villes universitaires de France, c'est un vrai sujet. Quand on a un gros problème à gérer à la rentrée universitaire. On va pas mettre nos étudiants dans le camping. Il y en a qui commencent leur année universitaire au camping. Il faut quand même le savoir.
Absolument.
C'est totalement inacceptable. On a vécu des cursus universitaires où on était accueillis dans des résidences. On avait un accès au logement. Aujourd'hui,
2% des étudiants de Paris Dauphine vivent au camping du Bois de Boulogne. Vous donner une idée. J'ai halluciné sur l'idée. Oui, vous voulez compléter.
Et donc là, on a un certain nombre d'injonctions de politique publique qui vont. On n'est pas capable d'achever un plan de construction de logements et on impose le ZAN, le zéro artificialisation nette, dans des communes un peu éloignées, comme je disais tout à l'heure, qui pourraient accueillir des étudiants, mais qui sont.
Oui, et qui sont frappés par cette circulaire.
Ils sont totalement frappés. En monde rural, c'est une catastrophe.
Et qui place le maire dans une équation insoluble.
Bien sûr, parce qu'on lui dit, vous ne pouvez plus construire, alors que ce sont des territoires qui, au contraire, peuvent absorber un peu cette pression qui se fait sur les villes universitaires. Enfin, bon, j'ai renoncé depuis un certain moment à comprendre toute la cohérence des politiques publiques dans ce pays. Mais enfin là, franchement, on a un point de blocage majeur et qu'il conviendra, j'espère, dans ce quinquennat de corriger.
Commentaire.
On est sur 4 pays et c'est le bordel partout.
C'est bien, ça nous rassure.
Bon, on va peut-être le couper au montage. Alors, Justement, c'est intéressant, ce que je voudrais qu'on revienne un peu sur le massifier l'offre, c'est-à-dire répondre à une demande qui est forte. Et donc, du coup, vous avez pris le pari de prendre le risque d'aller en copropriété et finalement d'intégrer toutes les fonctions asset, property, ADB, enfin property, c'est l'administration de biens, pour le compte de vos clients. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu.
En Europe.
Oui,
ça
oui.
Ça a déjà été fait aux États-Unis.
Oui, non, mais oui.
Sur ce modèle, vous avez quasiment 50 milliards qui ont été investis sur les stratégies d'agrégation aux États-Unis.
Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, en France, ça va devenir la norme, parce que justement, tout à l'heure, le député, décidément, le sénateur, je vais y arriver, le sénateur Stéphane Piednoir a parlé du coup. OK, vous investissez pour le compte de gros acteurs financiers. Vous titrisez, je reprends vos mots, finalement, ce type d'opération, la colocation, le co-living, tel que c'est désigné. Question, si je peux me permettre, est-ce que ça coûte plus cher? Première question. La deuxième question, est-ce que c'est plus compliqué au niveau de l'analyse des dossiers? Est-ce que quelqu'un qui finalement se retrouve dans la même équation, parce que, faut pas se leurrer, garantie visale n'est pas accordée systématiquement à tout le monde. Il y a aussi des critères d'éligibilité. C'est le cas aussi des garanties privées. Nonobstant le fait que, une incohérence du système, il y a encore des administrateurs de biens qui pensent que les garants sont toujours aussi importants dans l'équilibre des dossiers. Et on le sait que statistiquement, c'est faux. Question. La réponse de Colony est une réponse réelle sur le plan de la fluidité? Oui. La réponse sur le volume? Oui. Est-ce que, en termes de price, vous êtes adapté?
Bon, alors, sur le volume, oui, on essaye, hein, mais il faut quand même juste remettre des ordres de grandeur. Même si on déploie ce milliard, dans le meilleur des cas, on va créer à peu près 10 000 unités d'habitation. On est encore très loin de ce qu'il faudra à l'échelle des 4 pays où on va déployer ce portefeuille.
Maintenant, le deal que vous avez, c'est 10 000 étudiants logés.
Oui, alors ça dépend exactement des marchés, parce qu'on ne connaît pas exactement combien on va déployer à Luxembourg, à Bruxelles, à Paris, à Marseille, ou ensuite, et les prix des appartements de 100 mètres carrés à peu près ne sont pas tout à fait comparables entre ces différentes villes. L'ordre de grandeur va être la création d'entre 8 000 et 10 000 unités de logement.
À quel horizon?
Avec un milliard. À horizon, on espère quelques années. Alors, pour revenir sur votre question sur le prix, en fait, il faut bien comprendre que nous, en tant qu'opérateur, on est un pur intermédiaire et qu'en fait, on a des leviers forts d'action sur le prix qui sont à notre main et d'autres leviers qui sont pas à notre main, qui sont plutôt dans les mains du marché. Ce qui est entre nos mains aujourd'hui, c'est un sur le produit lui-même. La mutualisation des surfaces permet une réduction du prix. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en capacité de partager des espaces, que ce soit un salon, une cuisine, des salles de bain, des espaces de télétravail ou ainsi de suite, tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit dans le co-living ou dans la colocation, vous allez payer moins cher. D'ailleurs, c'est la base même organique du modèle de colocation. Ce sont des gens qui se sont mis à diviser un loyer entre eux pour pouvoir mutualiser une grande maison, un appartement,
et, plus de confort,
et payer moins cher.
Parce que l'objectif, c'était d'avoir
exactement
plus de confort, plus d'espace. Et
grâce à quoi? Grâce au foisonnement, ouais, qui est le fait que vous n'avez jamais 100% des locataires au même endroit, au même moment. Habituellement, vous avez des gens qui vont boire un verre, qui sont pas là, qui sont en vacances, qui sont en cours, ou alors ils dorment chez eux. Donc le fait est que vous pouvez maximiser l'utilisation de certains espaces par le partage. L'autopartage, c'est exactement ça. Une voiture, 96%, elle est garée au parking. Il vaut mieux la prêter. On peut appliquer le même raisonnement à l'immobilier résidentiel. Deuxième chose sur laquelle on a la main, c'est la réduction de tout type de coûts. Donc, par exemple, automatiser des process ou digitaliser des process de visite d'actifs, de signature du bail, de paiement de loyer en ligne. Donc, moins vous avez de présence physique, plus vous allez avoir la capacité de massifier la gestion avec moins de personnel, moins de coûts, et donc de baisser les prix. Et surtout, ce qui est le plus important, de réduire la vacance. Comme je l'ai dit, un mois de vacances, c'est 8% de recettes en moins. Donc en fait, si vous arrivez à avoir un taux d'occupation qui tend vers les 100%, vous êtes en capacité de baisser tous les loyers à iso-périmètre de revenus pour le bailleur final. Et la deuxième chose sur laquelle nous, on travaille depuis 5 ans, et je pense que ça porte ses fruits, puisque chaque mois, on arrive à attirer de nouveaux institutionnels, que ce soit des compagnies d'assurance, des fonds de pension, ainsi de suite. Notre logique est de rendre l'investissement résidentiel de plus en plus attractif pour des investisseurs institutionnels qui sont des acteurs du temps long. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir une appréciation de risque de cette classe d'actifs grâce au travail d'un opérateur qui va être de de mieux en mieux, le risque va être inférieur. Et s'ils ont une appréciation de risque qui est inférieure, ils vont attendre des rendements inférieurs. À partir du moment où ils vont attendre des rendements qui sont inférieurs, nous, on a la possibilité de diminuer les revenus qu'on va en tirer. Et nous, mécaniquement, aujourd'hui, on est parti d'un produit qui était statistiquement, mécaniquement, assez premium. On a commencé notre développement à Fontainebleau pour les étudiants de l'INSEAD sur un marché qui était cher, avec des clients à haut pouvoir d'achat, parce qu'il fallait qu'on prouve la pérennité du modèle, notre capacité à gérer. Aujourd'hui, tous les nouveaux produits qu'on sort et les territoires sur lesquels on se développe, on essaye systématiquement de tirer au maximum les prix vers le bas pour être complètement dans le marché et un jour, on l'espère, d'être moins cher que le marché. Et pour finir, nous, on a un partenariat aujourd'hui dont je suis toujours ravi de parler, qui est avec Inly Action Logement, et on serait ravi d'avoir même des partenaires dans le milieu du pur logement social. Nous, à partir du moment où on arrive à travailler avec des bailleurs qui sont exposés au logement intermédiaire et demain peut-être au logement social, on a aussi la possibilité de créer sur ce nouveau type d'habitat des choses qui sont éligibles aux mêmes critères et qui vont se ranger du coup sur les mêmes coûts pour l'occupant final. Donc je pense que le parc social doit aujourd'hui prendre en compte ces nouveaux formats d'habiter et y aller.
Alors, vous parlez d'Inly. Inly est spécialiste de ce qu'on appelle le logement intermédiaire. Hein, le logement intermédiaire, c'est un vrai sujet, hein, monsieur le sénateur, puisque pas assez riche pour aller dans le marché dit, entre guillemets, privé, et trop riche pour aller dans ce qu'on appelle le parc social. C'est un vrai sujet pour les classes moyennes. Si j'ai bien compris, Geoffroy, finalement, vous êtes dans la vision, j'allais dire, de la gestion d'actifs sur plusieurs branches à la fois.
Ah, exactement.
Vous êtes on peut vous confier l'achat éventuellement d'un immeuble en bloc, ouais. On vous donnerait l'exploitation.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai que la garantie pour l'investisseur qui s'inscrit dans un temps long, parce qu'il faut saluer l'action des foncières, concourt à la régulation des loyers bas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, car ceux qui font de la surenchère sur les loyers ne sont pas les foncières, mais plutôt les tout petits investisseurs privés, les petits propriétaires notamment, ça on le sait, il n'y a pas de, c'est sans appel. Deux, vous administrez, donc vous maintenez la gestion de l'actif, puisque la préservation d'un actif, c'est quelque chose qui s'organise, qui se traite. C'est une fonction property et d'administration. Et en même temps, vous avez deux visions. Soit vous le faites du bloc, parce qu'on vous confie en bloc, soit carrément, de façon très opportune, vous entrez dans les copropriétés et vous achetez.
Oui, c'est ça, on peut résumer le
donc
sujet.
Donc en fait, vous faites face à toutes les demandes, dans une certaine mesure. Mais je reviens quand même sur le prix. Pardonnez-moi, mais je reviens quand même sur le prix. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Voilà, je suis jeune, j'arrive à Paris. Alors, je ne vais pas aller dans cette formidable résidence que vous avez sur la butte Montmartre. On va aller dans un...
C'est la plus chère.
C'est pas la plus chère.
Si, c'est la plus chère.
Ah, c'est la plus chère.
Entre 1002 et 1600 euros.
Monsieur le sénateur, il faut y aller.
Donc, c'est la plus chère.
C'est juste magnifique. C'est juste... Voilà, c'est un rêve. Quoi.
Mais vous êtes à la basilique.
Imagine, t'es étudiant, t'arrives à Paris, on te dit que tu vas étudier, tu t'imagines que tu vas aller dans une zone industrielle et tu te retrouves au pied de la butte Montmartre. C'est juste un kiff, quoi. Voilà, c'est.
Mais notre premier tarif aujourd'hui sur le Grand Paris, pour vous donner des chiffres,
pour se loger,
c'est 450 euros par mois, tout compris, charge incluse, sur une station de métro. Donc vous ne serez pas à Paris intramuros, vous serez en première couronne, mais on démarre à 450.
Il y a une station de métro à proximité.
Alors nous, on ne valide aucun projet aujourd'hui. Geoffroy ne valide aucun projet à moins d'un kilomètre d'une station de voie ferrée sur le Grand Paris. Voilà.
C'est incroyable.
Donc ça, c'est en colocation.
Mais en colocation, dans un environnement vachement sympa,
un
habitat partagé, une salle. Moi, j'ai vu quelques résidences dans lesquelles il y a des communs vachement sympas. Enfin bon, on boit beaucoup d'ailleurs. Non, je plaisante. Hein, mais c'est 450 euros.
En colocation, on a des projets où on est capable de faire.
Est-ce
ça.
Qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent pour la sélection des dossiers, c'est un frein ou pas?
De quoi?
Quand on vient, comment on fait pour rentrer chez Colony, quoi? Je veux me loger, j'ai besoin de me loger. Je fais comment? Je suis obligé d'appeler papa, maman, je fais comment pour...
Il y a deux sujets. On peut avoir, sur la question des garants, il y a une manière très classique de le faire, c'est des garants personnes physiques. Mm-hmm. Et on prend aussi des garants. En l'occurrence, il y a la garantie visale, mm-hmm. Et il y a des garanties privées. Voilà. Et qui jouent exactement le rôle du garant personne physique.
Et ça n'oblige pas les parents à...
Ça n'oblige pas nécessairement les parents.
Donc quelqu'un qui n'a pas les moyens d'avoir des parents qui se garantissent, voilà.
Voilà, exactement.
C'est pas un frein.
Donc aujourd'hui, ces solutions-là existent. Une particularité sur Visal, c'est que Visal ne s'applique pas au beau unique en colocation. Donc ça s'applique à un certain type de, un certain schéma juridique dans lequel vous avez des baux individuels en colocation. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est une particularité de Visal. Après, vous avez des acteurs privés qui ont une mission relativement similaire à celle de Visal. Et donc, tout un panel relativement récent de garanties alternatives à des garanties, à des garants familiaux, enfin parents ou autres, qui est un frein énorme. Donc effectivement, aujourd'hui, vous avez donc le schéma pour un usager, pour quelqu'un qui voudrait rentrer chez Colonize, c'est d'identifier une résidence dans laquelle il a envie d'habiter. Il y en a plusieurs, à différents tarifs, etc. C'est de s'assurer qu'on comprend la résidence, la taille, les autres occupants. Il y a quand même un truc social qui est très important, c'est qu'on intègre une communauté, il y a d'autres gens. Voilà, donc, et qui souvent sont là avant. Donc, comprendre avec qui on va habiter. Et puis ensuite, constituer un dossier, mais un dossier qui, au fond, est super simple. C'est un dossier, c'est l'état civil, la situation de la personne, étudiant, jeune actif, et la question des garants, soit c'est des garants physiques, soit c'est des garants tiers, on va dire. Et ensuite, une signature dématérialisée, visite virtuelle.
Mais dans le scoring des dossiers, est-ce qu'on entre dans les mêmes fourches codines qu'un administrateur de biens classique qui met en location un appartement sur un média ?
Plus bas, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, les critères sont plus réalistes par rapport au marché. Vous avez aujourd'hui énormément d'administrateurs de biens privés qui vont demander trois fois le loyer
minimum.
Revenu.
Minimum.
Et pour quelqu'un qui a moins de 30 ans, ça n'a
30-35% maximum par rapport à l'affectation du loyer.
Nous, on est beaucoup plus réaliste. On monte jusqu'à plus de 50% en moyenne. Mais parce qu'on sait que c'est comme ça que les gens sont, et que des gens qui démarrent une vie active en étant payés un SMIC, c'est une grande majorité de jeunes, et il faut aussi pouvoir se loger.
Vous en avez la maîtrise, ça veut dire que ceux qui vous confient les biens à gérer, ils vous laissent carte blanche.
Ah oui, exactement, on est vraiment opérateur par rapport à ça, et on s'en occupe. Et j'ajouterais une dernière typologie de locataires qu'on a, dont on parle assez peu, mais c'est quand même plus de 20% aujourd'hui de nos locataires, sont les étrangers. Aujourd'hui, si dans le parc privé, si vous n'êtes pas de nationalité française et si vous n'avez pas un garant qui est domicilié en France, votre dossier, il passe instantanément à la poubelle.
Ah oui.
Nous, on les prend, ces locataires, et on prend aussi des Français quand on est ouvert à l'international. Grâce justement à ce système aujourd'hui d'avoir un opérateur beaucoup plus institutionnel avec des process plus établis qui nous permettent soit d'avoir un garant qui est à l'international, soit de lui proposer une alternative et dans sa langue, s'il y a énormément de gens qui arrivent et qui ne sont pas francophones. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème que d'ailleurs les Français rencontrent dès qu'ils partent à l'étranger et qui aujourd'hui est réglé de façon illégale dans le parc privé. Je l'ai vécu, je pense que quasiment tout étudiant le vit quand il arrive à l'international ou un étranger qui arrive en France, qui est de, c'est pas compliqué, t'es là 6 mois, tu me payes 6 mois de loyer.
Et après,
t'as les clés.
On appelle ça des marchands de sommeil, hein, pour ceux qu'on peut. Justement, la question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'on signe un bail ?
Oui.
Un vrai bail. D'accord, ok. C'est quoi, c'est un bail mobilité, un bail meublé, c'est quoi ?
Non, c'est un bail meublé. Alors ça dépend aujourd'hui, dans les opérations neuves, où on est parfois sur un format logement-foyer, ça peut s'apparenter à un contrat de résident, qui est le type de contrat qui est prévu pour cette destination particulière. À partir du moment où on est en colocation ou en co-living sur de l'existant réhabilité, on est sur un bail meublé.
Pierre Vital, quand vous entendez justement ces nouvelles solutions, est-ce que pour le promoteur que vous êtes, sur cette classe d'actifs, il n'y a pas quelque chose finalement d'assez résilient en se disant le promoteur peut aussi penser la construction en fonction de ce type d'exploitation. Est-ce que vous avez parlé de résilience tout à l'heure en matière de construction neuve dont on espère réellement que le prochain gouvernement, parce que tout à l'heure on a fait allusion à un gouvernement qui n'avait pas mis en place le ministère du logement, on a eu Amélie de Montchalin qui nous dit que après les élections législatives, il y aura un secrétariat d'État au logement, enfin, pas plus que ce qu'il y avait finalement avant. Est-ce que dans l'acte de résilience des promoteurs qui ont été assez malmenés ces derniers temps, ce type de classe d'actifs paraît être une solution rentable pour les investisseurs ? Apparemment, c'est le cas. On n'aurait jamais confié 1 milliard d'investissements à Colonize, ça n'avait pas été le cas. Mais pour les acteurs du neuf, est-ce qu'il n'y a pas là une solution intéressante au-delà des résidences gérées que vous connaissez déjà par ailleurs ?
Alors, peut-être déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que le marché de l'immobilier neuf a été depuis quelques années fortement porté par la vente au détail. Et depuis la crise du Covid, on a senti quand même une tendance forte pour revenir sur des investisseurs institutionnels qui viennent acheter finalement une certaine stabilité, une certaine résilience, comme on en parlait tout à l'heure, parce qu'effectivement, par rapport à du bureau, on est moins soumis à des vacances très longues et on a surtout une capacité à venir absorber les chocs quand on a une masse critique. Donc, le premier élément, c'est qu'en fait, on a vu arriver des investisseurs qui ont réarbitré des classes tertiaires vers du classe résidentielle. On a aussi constaté, et c'est intéressant de voir que la détention immobilière qui était en direct, et comme vous le disiez tout à l'heure, Sylvain, on avait quand même cette aspiration à devenir propriétaire pleinement de son bien. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui, au lieu d'être en direct, préfèrent passer par des structures pierre-papier, au PCI, SPCI, et donc du coup, on se retrouve dans une situation où il y a de l'argent qui arrive sur le marché et on a besoin du coup de le déployer. Ce qu'on voit, nous, derrière, c'est que nous, on est des plateformes immobilières. Nous, notre objectif, c'est trouver des terrains sur lesquels on a une acceptabilité politique pour un produit, et il faut que le produit soit différenciant. Si on vient toujours avec les mêmes modèles de résidence, avec les mêmes modèles de produits gérés, résidence étudiante à l'ancienne, résidence senior à l'ancienne, on se rend compte que les concepts sont galvaudés, sont un peu usés, et donc on a du mal à faire accepter le projet par l'élu, voire même par les personnes locales, par les riverains. Donc, nous, ce qu'on ressent, et en particulier chez Ideal Group, c'est qu'on doit jouer notre rôle de plateforme immobilière et que notre rôle, c'est de venir d'apporter des solutions de gestion immobilière qui sont pertinentes sur le territoire et qui ne sont pas déjà vues. Sinon, on va être de suite attaqué par des gros concepts et des gros opérateurs qui vont arriver avec leurs gros sabots et qui finalement vont reproduire une nouvelle fois ce nouveau schéma. Donc, moi, je pense qu'effectivement, l'attrait des investisseurs en bloc pour ce type d'actifs doit nous pousser à trouver de plus en plus de solutions qui vont adresser ce marché des jeunes actifs, comme on en a parlé. Peut-être, pourquoi pas aussi, le marché des seniors sur d'autres formats. On voit le concept des EHPAD qui est fortement attaqué aujourd'hui. Peut-être que demain, on aura des concepts de résidence senior nouveau format. Je pense à des concepts où on a parfois maintenant des maisons moitié EHPAD, moitié lit, pour permettre d'avoir du coup aussi un cycle de vie qui permet d'accueillir des gens autonomes qui après deviennent dépendants et qui restent sur le même site. Donc je crois qu'on doit, et ça c'est vraiment une conviction forte qu'on porte chez Ideal Group, on doit être en relation directe avec le terrain et apporter des solutions qui permettent d'avoir une sécurisation complète. Le concept, l'investisseur, l'exploitant, et évidemment l'acceptabilité politique locale. Donc je pense effectivement que notre avenir, c'est d'aller sur des produits de ce type-là, et que la vente en bloc qu'on a connue à l'époque, dans les années 90, qui était quasi exclusivement en investisseur institutionnel, est en train de se rééquilibrer. Et donc, on va avoir ce nouveau type de sortie commerciale sécurisante pour nous dans un marché qui est quand même chahuté, où les taux d'intérêt augmentent et où on risque d'avoir aussi des investisseurs Pinel qui vont se rétracter encore plus.
C'est très clair. C'est très clair. Voilà, il est l'heure bientôt de nous quitter pour ce premier podcast très complet, et c'est intéressant puisqu'on a posé, on va dire, les bases des contenus qui seront à venir. On vous proposera d'ailleurs aussi quelques reportages, on interrogera, on ira au-devant de ceux qui utilisent, qu'il faut aussi toujours avoir un avis et un retour testimonial de ceux qui les utilisent. Je voudrais qu'on se termine un petit peu sur... On a déjà vu, on a déjà bien évidemment échafaudé les solutions. Je m'adresse à vous, Stéphane Piennoir. La solution, elle peut être que politique, quand on y réfléchit bien, notamment sur la réglementation. Parfois, on a l'impression d'un flou un peu artistique, ou même de réglementation contraire. Des contraintes qui, finalement, absolues. Je prends le cas, par exemple, des problématiques de parking, des problématiques d'espace commun dans lequel on pourrait peut-être retravailler, et aussi cette nécessité, puisqu'on est tous d'accord là-dessus, que la transition énergétique, la transition environnementale est une nécessité admise par tout le monde. On est tous d'accord. Il n'y aura pas, je reprends un peu ce que disait le président de la République, il n'y a pas de planète B, ça c'est clair, et qu'il nous faudra bien inventer les choses. Il faut quand même rappeler que la construction, c'est quand même le deuxième émetteur de carbone au monde, et que nécessairement, il faut faire quelque chose là-dessus. Qu'est-ce serait, selon vous, alors vous l'avez déjà abordé de façon liminaire dans votre rapport, mais les solutions, un PLU plus souple, est-ce que on voit point d'ailleurs dans votre rapport peut-être une attribution de responsabilité un peu plus soutenue pour les élus locaux, pour leur laisser un peu plus la main? Ça serait quoi les deux, trois solutions un peu symboliques qu'il faudrait mettre en œuvre pour y arriver et permettre à des opérateurs comme Colony et d'autres de pouvoir œuvrer tranquillement avec plus de certitude?
Oui, vous avez raison. Il y a que Elon Musk qui pense qu'il y a une planète B en colonisant Mars dans quelques années, quelques décennies. Bon, on n'y croit pas beaucoup. Pour être plus sérieux, alors les choses qui peuvent faciliter l'accès au logement pour les jeunes, mais en général les étudiants, les jeunes actifs. D'abord, en finir avec l'accumulation des normes. On a ce sport français qui veut qu'on ajoute des réglementations à la réglementation, et parfois dans le détail, quoi. Alors que là, on a vraiment un sujet de politique publique pour répondre à un besoin, mais de manière urgente. Et on est en train de se tirer des balles dans le pied supplémentaires. On est en train de boiter déjà, et on se finit comme ça.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ?
Bah, déjà, je le dis et j'en prends une part. Pour les parlementaires, ça veut dire peut-être un petit arrêter de faire comme ça des réglementations et des amendements qui alourdissent les différents codes. Le code de l'urbanisme est sans doute l'un des...
Ou un moratoire sur la norme. On pourrait aller jusqu'à se risquer sur un moratoire sur la norme.
Peut-être pas un moratoire parce que ça peut être dangereux. Mais en tout cas, vous savez, on a aussi créé, il y a eu l'émergence des observatoires du logement, peut-être que territoriaux. On peut peut-être à un moment donné leur demander de faire un retour, quel est leur rapport final, enfin peut-être pas final, mais où on en est aujourd'hui. Et puis oui, faciliter lorsqu'il y a des points de blocage qui sont soulevés par des opérateurs privés qui sont sur des modèles disruptifs, comme je disais tout à l'heure, en prendre compte et se dire bon là, on a besoin d'impulser une nouvelle politique dans un délai très court. Prenons des dispositions. Pourquoi pas de manière temporaire pour aller vers des assouplissements sur les histoires de parking. Ça a été cité tout à l'heure. Si on considère que les étudiants et les jeunes actifs utilisent de moins en moins la voiture, est-ce qu'on a toujours besoin de deux places par logement tel que c'est prévu, une place même en logement social? Voilà, peut-être assouplir tout ça, dégoupiller tout ça pour que on sorte d'un carcan qui aujourd'hui nous contraint. Enfin, quand on voit le nombre de contraintes dans un projet local d'urbanisme qu'on construit à l'échelle intercommunale, c'est invraisemblable. Enfin, on parlait de la zéro artificialisation, mais c'est vrai aussi pour les zones humides, pour les hauteurs. Aujourd'hui, faut vraiment être très très motivé pour mener un projet urbanisme avec des documents comme ça. Donc, il faut parfois faire confiance, c'est-à-dire que ce type d'opération, Colonie aussi, peut donner envie à d'autres opérateurs. Hein. Ce serait peut-être pas les seuls demain sur le secteur, mais pourquoi pas pour desserrer l'étau et pour donner envie à d'autres de faire dans le même registre et donner envie à des particuliers qui sont propriétaires de grosses bâtisses de confier comme ça leur patrimoine immobilier pour d'autres usages que l'usage traditionnel qu'ils avaient imaginé au départ.
Alors Pierre, moi je connais votre position bien évidemment, mais j'aimerais que vous la redisiez au public et à ceux qui nous écoutent. C'est qu'est-ce que vous demandez, quelles seraient les solutions pour aller justement vers cet immobilier multipolaire qui permettrait de loger tout le monde, je dis bien tout le monde, les jeunes étudiants, les jeunes actifs, mais aussi les seniors dans de bonnes conditions, en permettant à ceux qui le veulent aussi d'avoir un accès facilité, s'ils le souhaitent, à la propriété.
Alors, effectivement, Sylvain, vous connaissez ma position et je reviens sur ce que disait Monsieur le Sénateur et je suis tout à fait d'accord. Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est nos temps de projet sont de plus en plus longs. Il y a quelques années, le délai moyen entre une signature d'une promesse et la livraison d'un logement, c'était 36 mois. On est passé allègrement à 45 mois et les fautifs, c'est des torts partagés. Il y a les collectivités locales sur la pré-instruction des dossiers, puisqu'on nous rallonge les délais pour pré-instruire les dossiers. On nous rallonge les délais d'instruction de dossiers parce qu'on nous demande souvent des pièces complémentaires. C'est de plus en plus compliqué de concevoir et de compiler un permis. Donc, les pièces complémentaires arrivent en cours de route et relancent les délais d'instruction. Et plus récemment, on a un bloc qui est lié au recours. Et ce phénomène-là s'est amplifié ces dernières années. Donc, il y a déjà un axe qui est très fort, c'est confiance entre les opérateurs privés et les opérateurs publics qui doit passer par un raccourcissement des délais où on a une action à mener. Donc, c'est les délais pour moi de pré-instruction. Là-dessus, faut être ferme. Il faut que du coup, les élus se tiennent à des délais très courts. Le deuxième point, c'est qu'il faut assumer et respecter les PLU. Ce point-là, il est important parce que quand on en parle avec les différentes administrations sur lesquelles nous, on est présents, et comme vous le disiez, on est présent sur 6 territoires en France, on est à peu près... on voit à peu près 60% du marché français dans notre production, on se rend compte qu'il y a à peu près 30 à 40% de pertes en ligne sur la densité permise par le PLU et la densité réelle acceptée politiquement. Il faut savoir que tous les 2 ou 3 dossiers, il faut qu'on en refasse un pour compenser la perte qu'on a eue sur le précédent. Et ce qui est dramatique, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un dossier, en plus des délais que j'ai évoqués, on se remet à risque sur éventuellement des dossiers qui tombent, qui chutent, parce qu'ils sont attaqués par les requérants, par les riverains. Et donc, du coup, c'est un manque d'efficacité de production. Si on veut produire massivement, il faut de l'efficacité. Et l'efficacité opérationnelle, elle passe par effectivement, réduire les délais de pré-instruction et donc respecter strictement des délais d'instruction de permis. Et deux, appliquer la pleine capacité du PLU pour justement pas être contraint là-dessus. Le dernier point qui est anecdotique, mais qui est valable spécifiquement pour le sujet des résidences étudiantes, c'est effectivement plus de flexibilité sur les règles liées au parking. C'est souvent ça qui bloque la réalisation des opérations, parce que souvent, la résidence étudiante est assimilée à du logement. Et quand c'est assimilé à du logement, on est sur une place par logement, alors qu'on est en inadéquation par rapport à l'utilisateur final.
Voilà. C'est très clair. Merci Pierre. Rapidement, Geoffroy, les solutions, alors on connaît aussi vos positions, mais rappelez qu'est-ce que vous souhaiteriez, puisqu'on sait que c'est que politique en France.
En fait, alors c'est politique dans le sens de la compréhension d'un mouvement de fond. Et j'ajouterais du coup un élément à ce que Pierre Vital vient de dire, c'est l'acceptation que la cohabitation, la colocation, le co-living, et pas que pour les jeunes d'ailleurs, la cohabitation, ça n'est pas une division de logement, c'est pas moins bien, c'est juste différent. Et donc accepter, et c'est politique.
Mais c'est intéressant que vous nous rappeliez ça, oui.
C'est politique dans le sens.
On entend parfois des politiques penser à la précarité quand on imagine ce genre de choses en disant vous voulez optimiser un peu plus la valeur, le business.
Ouais, alors évidemment qu'il y a des dérives possibles et contre lesquelles il faudra lutter. Mais au fond,
Mais heureusement qu'il y a un équilibre économique, sinon ça pourrait pas marcher.
Ça fonctionnera pas.
Bah oui.
Dans le libre, en tout cas. C'est vraiment l'idée que la cohabitation, c'est une nouvelle forme d'habiter. C'est pas mieux, c'est pas moins bien,
c'est
juste différent. Il y a des enjeux, il y a des éléments à bien faire. C'est-à-dire, il y a des enjeux vraiment, c'est pas gagné d'avance, mais la cohabitation, c'est nouveau. Et donc, ce qui est vrai dans le neuf est particulièrement vrai dans l'ancien. Par exemple, la réhabilitation de très grands logements historiques, des T5, T6, T7, qui ont été construits pour des familles avec des cellules familiales qui ont largement évolué. C'est pas mal, c'est juste une proposition parmi d'autres, pour assurer cette forme de transition vers un logement adapté aux usages actuels.
Conclusion, François.
Déjà, énormément de pistes ont été évoquées. Hein. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à ajouter. Moi, je voudrais ajouter un mot qui me semble assez essentiel par rapport à toutes les crises qu'on vit depuis quelques années, par rapport à l'évolution aussi des usages, hein, parce que la coloc, ça a quelques 30 ans à peu près en Europe, ça s'est de plus en plus développé, on voit que c'est quelque chose qui était un épiphénomène qui s'est transformé en tendance de fond. On est sorti d'une crise sanitaire qui a remis beaucoup de nos usages et de nos façons de vivre en question. Aujourd'hui, on a une crise des coûts de construction, on a une crise potentielle économique, d'inflation, bon, même la guerre, alors même si on n'est pas affecté au quotidien, on a cette chance dans cette partie de l'Europe. Moi, je crois énormément au rôle du politique, du législateur, au fait d'avoir un cadre. Je crois pas du tout à l'intérêt d'avoir un moratoire. Je crois pas du tout à l'intérêt de pas avoir de normes. Par contre, ce que je pense essentiel aujourd'hui et qu'on oublie peut-être un peu en Europe et en France en particulier, c'est aussi la nécessité d'avoir des espaces de respiration et d'utiliser ce mot un peu galvaudé, mais qui est celui de l'agilité. Je pense qu'on a besoin de pouvoir tester des choses plus rapidement, d'avoir des retours sur expérience et de tirer des enseignements du terrain. Donc ça, c'est un peu le start-upper qui va parler. Mais le fait est que le marché et l'usager a toujours raison et on peut pas lui imposer des choses et on peut pas penser à sa place. Et je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où on va réussir à créer ces espaces pour le test, pour l'expérimentation, pour le retour d'expérience, on aura, à mon avis, gagné beaucoup de choses.
Merci beaucoup. Voilà, c'était une première. On a littéralement explosé les compteurs en termes de timing, mais on va découper le podcast que vous reverrez bien évidemment sur les applicateurs, sur les agrégateurs pardon, de podcasts et sur l'application de Radio Immo. Je voudrais remercier tout spécialement le sénateur Stéphane Piennoir, sénateur du Maine-et-Loire. Merci d'être passé par les studios de Radio Immo pour parler de ce sujet ô combien important. Un grand merci à Pierre Vital, cofondateur d'Ideal Group, qui se trouve en duplex à Bordeaux. Merci Pierre d'avoir participé à cette émission. On se revoit d'ailleurs très bientôt, puisque nous avons une connexion avec la Fédération des promoteurs immobiliers, où on va faire se battre aussi pour que les acteurs du logement neuf fassent valoir aussi leur action dans cette nouvelle urbanité. Un grand merci à Geoffroy de Sainte-Marie, directeur du développement de Colonize. Et enfin, merci à François Roth, le cofondateur de Colonize, d'avoir participé à cette émission pour inaugurer cette collection. C'est dire un peu tous les sujets que l'on va évoquer. Donc, vous retrouvez une partie des podcasts qu'on va découper sur Deezer, Spotify et sur tous les agrégateurs qui vont bien. Likez, commentez, partagez. Et s'il vous plaît, toujours avec beaucoup de bienveillance, les amis, on se retrouve pour un prochain numéro de, justement, cet habitat citadin, nouveaux usages, nouveaux besoins. On vous en parlera dans la prochaine édition.
L'habitat citadin, nouveaux usages, nouveaux besoins, une émission proposée par Colonize, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.